Depuis 30 ans, le docteur Christophe Massin, grâce à un parcours atypique, étudie le rôle et l'impact des émotions. Dans son dernier livre paru chez Odile Jacob, « Souffrir ou aimer », le psychiatre nous invite à repenser la relation que nous entretenons avec nos émotions. Selon lui, trop souvent, nos émotions sont mal comprises et refusées, ce qui entraîne la souffrance. Inspiré par l'enseignement d'un sage hindou, il nous montre comment l'émotion, lorsqu'elle est transformée par un travail d'acceptation, offre ainsi une voie qui peut nous pacifier et permettre d'accéder à l'amour de soi et par conséquent à l'amour de l'autre. Le philosophe Alexandre Jolien, qui a préfacé cet ouvrage, écrit « Christophe Massin nous incite à franchir un cap souverain, ne plus vouloir plaire à tout prix et aimer sans intérêt. L'émotion ne tue pas et la ressentir à fond nous prémunit de ce qui détruit. En un mot, il nous convie à un amour libre et joyeux. Partir avec le docteur Christophe Massin, c'est peut-être se libérer, vivre et aimer.
Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens.
Docteur Christophe Massin, d'où venez-vous ?
D'où je viens ? Eh bien, du point de vue géographique, je viens de Paris, d'une famille aisée, avec un père chef d'entreprise très actif, qui portait en lui en même temps une recherche qui l'a fait s'intéresser à Teilhard de Chardin, à Jung, à la psychanalyse, ce qui n'était pas très commun à l'époque. Je suis né en 53. Donc voilà, dans les années 50-60, cette recherche qui allie une dimension spirituelle et psychologique, mais je pense qu'il y a quelque chose qui vient de son côté à lui. Et du côté de ma mère, en fait, une grand-mère qui était une femme très religieuse, assez mystique, catholique, que je respectais beaucoup. Et donc ma mère, ce que j'ai reçu d'elle, c'est la musique. Une mère violoniste, quelque chose d'important aussi dans ma vie. Donc voilà un peu ce cocktail de départ.
Qu'est-ce qui fait qu'à l'âge de 10-12 ans, vous allez rencontrer un psychiatre ?
Absolument le fait du hasard. Pendant des vacances chez des amis de mes parents, il y avait un psychiatre qui était là. Je n'ai aucun souvenir de lui, mais je sais juste que j'ai dit « Tiens, quand je serai grand, je serai psychiatre ». Après, ça m'a totalement quitté, je n'y ai plus du tout pensé, même j'avais d'autres idées de ce que je voulais faire. Et c'est revenu alors que j'étais étudiant en médecine. Paradoxalement, en n'ayant pas une passion pour la médecine, mais en me disant, je ferais peut-être de la médecine chinoise, de l'acupuncture, parce que je m'intéressais à la Chine, je faisais du chinois à l'époque.
Oui, c'était déjà innovant pour l'époque aussi.
Voilà, donc ça, ça m'intéressait beaucoup plus que la médecine, en fait. Et puis, à 21 ans, j'ai rencontré les livres d'Arnaud Desjardins et Arnaud Desjardins. Et donc là, il y a eu un virage très important dans ma vie.
Dans votre livre « Souffrir ou aimer, transformer l'émotion », vous racontez, Christophe Massin, que lorsque vous avez eu 20 ans, donc lorsque vous étiez étudiant en médecine, vous avez ressenti ce besoin d'être aidé pour vous en sortir. Et malgré la lecture de nombreux ouvrages de Freud, vous ne vous êtes pas engagé dans cette voie-là. Pourquoi ?
Là aussi, la vision qu'avait Freud de l'être humain à l'époque, à la fois m'intéressait beaucoup, et donc j'ai puiser des choses dans ses livres, mais en même temps, son discours sur la spiritualité ne m'allait pas, de voir ça juste comme quelque chose de névrotique ou d'enfantin. Je sentais que ça ne se limitait pas à ça, en fait. Mais je ne sais même pas si c'est ça qui m'a vraiment arrêté. En fait, je sentais un malaise. Voilà, je sentais que j'avais des facilités intellectuelles et qu'en même temps, profondément, il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais sur lequel je ne savais pas mettre de mots. Mais il va falloir que je fasse quelque chose.
Donc vous comprenez ça en lisant le livre d'Arnaud Desjardins ?
J'avais le projet d'aller en Inde, un voyage purement touristique. Et puis donc une des personnes qui participait au voyage a rencontré Arnaud Desjardins en croyant que c'était un explorateur qui allait nous donner des bons tuyaux sur l'Inde. Elle a rencontré un personnage, quelqu'un qui avait une forte présence, qui l'avait beaucoup impressionné.
Il faut rappeler qui était Arnaud Desjardins, qui nous a quittés en 2011, je crois.
Oui.
Donc Arnaud Desjardins était un réalisateur de films et c'est l'un des premiers à s'être intéressé aux sages orientaux.
Lui, il a vraiment eu le mérite de faire connaître à travers la télévision et à des heures de grande écoute à l'époque le monde de la spiritualité orientale et pas de manière anecdotique.
Oui, puisque lui-même est devenu disciple d'un maître indien, le Swami
Prajnanpad.
J'ai vraiment approché, non pas un ni cinq, mais 15 ou 20 maîtres spirituels qui sont des hommes absolument extraordinaires.
Effectivement, mais après avoir rencontré aussi beaucoup d'autres maîtres orientaux, en tibétain, afghan, indien, japonais, où son approche de l'Orient et de la sagesse orientale n'était pas qu'une approche touristique ou ethnologique, mais vraiment voir comment recevoir en tant qu'occidental, au-delà des aspects exotiques, des choses vraiment essentielles par rapport au cheminement d'un être humain sur le plan spirituel.
Le hasard qui n'existe pas, il y a quelques semaines, on a pu lire dans La Vie un portrait de Swami Prajnanpad, un très bel article d'André Comte-Sponville qui parle de ce maître qui a été aussi son maître. Et il dit que ce maître a inventé une forme de psychothérapie spirituelle et une philosophie de l'acceptation.
Alors, il fait allusion d'une part à un travail sur les émotions et sur l'inconscient que ce maître avait développé de manière extrêmement surprenante entre les deux guerres, dans une Inde quand même qui était à l'époque une colonie anglaise, qui s'est rendu compte que les élèves qui venaient le voir en tant que maître spirituel avaient des grosses difficultés psychologiques et qu'un travail sur l'inconscient, sur leurs émotions était nécessaire. Et donc il a développé cette approche qui a été appelée de manière très littérale par ses élèves français « lying », qui veut simplement dire être allongé, le mot anglais, parce que ça se pratiquait allongé sur un petit matelas.
On pourrait dire que c'est un mélange entre le Vedanta et la psychanalyse ?
C'est pas vraiment un mélange, c'était vraiment un maître du Vedanta. Il a trouvé dans Freud un langage, une approche qui lui a permis, après, avec cette base de réflexion, de développer sa propre approche. Donc je dirais que c'est plutôt qu'il a su faire une synthèse heureuse d'éléments qui venaient de l'Occident, qui sont venus éclairer, rendre vie à des aspects qui existaient dans l'hindouisme, mais qui n'étaient peut-être plus vivants.
Donc il a créé un pont entre l'Orient et l'Occident, en quelque sorte.
Voilà, en dégageant complètement toute notion de croyance, de religion, et un langage où aucune référence, je dirais, religieuse n'était présente.
Parce que lui-même avait reçu une formation scientifique, je crois.
Voilà, donc lui-même, d'un côté, était professeur de physique, mais par ailleurs, c'était un brahmane. Il connaissait extrêmement bien les textes sanskrits, tous les classiques de l'hindouisme, et il a réussi en lui cette synthèse d'un langage complètement moderne qui a touché des philosophes comme André Comte-Sponville ou Alexandre Jolien, et en même temps, oui, une compréhension de l'être humain qui peut être totalement accessible à un homme du XXIe siècle.
On retrouve Arnaud Desjardins racontant sa première rencontre avec, comme il l'appelait, Swamiji.
Il m'a dit, il n'y a personne d'autre que vous à la chambre, vous aurez un entretien de 3 quarts d'heure le matin, un entretien de 3 quarts d'heure l'après-midi. Et d'entretien en entretien, je réalisais ce que j'ai découvert n'a pas de prix. Swamiji m'a montré que ce que je considérais comme l'empêchement au rappel de soi, le facteur d'oubli, d'emportement, d'identification, de distraction, pouvait être mon point d'appui. C'était renverser complètement la situation. Et qu'il n'y avait pas d'autre point d'appui possible. Et que tout le secret tenait en une phrase, pas ce qui devrait être, mais ce qui y est, c'était d'une simplicité totale.
Comment toucher ce qui est, Christophe Massin ?
Par nature, c'est indéfinissable. Et donc, c'est plutôt un processus d'élimination. Parce que finalement, notre réaction, notamment face à des événements qui nous font mal, c'est de réagir contre en disant « mais ça ne devrait pas m'arriver ». Justement, ça ne devrait pas être. Pourquoi la maladie ? Pourquoi la séparation ? Pourquoi tout ça ? Donc, nous rejetons, en fait. Bien sûr, c'est l'événement qui nous touche, mais c'est bien plus que ça. C'est tout ce que ça fait monter en nous comme réaction. Et encore plus profondément, c'est la réalité dans ce qu'elle a de mystérieux et d'incompréhensible qui nous dépasse totalement. Donc ce qui est, c'est au-delà des mots, c'est indescriptible en fait.
Docteur Christophe Massin, vous, qu'est-ce qui vous a plu dans cet enseignement du Swamiji?
Ce qui m'a plu à l'époque, quand j'avais donc 21, 22 ans,
c'est on rappelle, on est au début des années 70.
Donc, c'est que l'éducation chrétienne que j'avais reçue ne m'aidait pas face à ce que je ressentais comme difficulté intérieure. Non seulement ne m'aidait pas, mais me disait « je devrais être comme ci ou comme ça, je n'y arrive pas » et augmenter une division intérieure, augmenter le conflit et la culpabilité. Alors que là, j'avais le sentiment qu'on ne me demandait rien, mais qu'au contraire, j'avais une démarche qui me permettait d'accéder pas à pas à qui j'étais et qu'à partir de là, je pouvais justement toucher quelque chose d'authentique où je ne forçais pas, fallait pas que j'éprouve de l'amour, mais si j'en éprouvais pas, comment on fait? Si on le ressent pas, on le ressent pas. Et sinon, de jouer la comédie de l'amour, c'est insupportable. Donc moi, je voulais vraiment quelque chose qui vienne naturellement de moi-même. Donc là, j'ai trouvé une démarche concrète qui me permettait de partir de là où j'étais. C'est ça qui m'a parlé, en fait.
Oui, parce que dans votre livre, vous racontez aussi que vous avez rencontré d'autres sages, d'autres maîtres, et que leurs témoignages venaient confirmer ce que vous aviez lu. Et vous étiez un peu comme saint Thomas, vous aviez envie de voir ce que vous aviez lu.
Oui, j'ai lu dans Arnaud Desjardins des choses qui me semblaient extraordinaires. Ces hommes et ces femmes qui dégageaient vraiment une telle dimension d'amour, de paix, de sérénité, ça semblait assez convaincant, mais d'être en leur présence, c'est autre chose que de le lire dans un livre.
Mais vous racontez qu'en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que vous n'avez pas forcément envie d'utiliser les réponses que vous trouvez dans cette sagesse indienne dans votre quotidien, enfin, en parlant des sages, même si leur rayonnement me touchait au plus profond de moi-même.
Oui, et c'est là où j'ai vu la valeur d'un enseignement qui partait, un peu comme le fait le bouddhisme, de la situation de l'homme ordinaire. Dans les religions, on nous propose un modèle qu'il faut atteindre. Et puis si on n'y est pas, on est bien, il y a un gap. Tandis que là, ça éclairait comment je suis et ça éclairait pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi je réagis comme ça. Et donc là, j'avais directement une matière avec laquelle je pouvais avancer. Alors qu'auprès de ces maîtres, je retrouvais un peu mon catéchisme souvent. Ils me disaient des belles et bonnes paroles, mais dont je sentais que je ne peux pratiquement pas faire grand-chose ou rien du tout.
C'était même trop religieux ?
Oui, ou de faire confiance à Dieu, etc. Moi, je voulais bien, mais en fait, non, je ne pouvais pas.
Yeah.
partir avec.